commentaire. Marc Legault.
Salut mon Marc.
Salut Michel.
On a innové, on a un thème.
Merci beaucoup.
On l'a. C'est fait. Là, t'es quelqu'un. T'as ton thème au 104.7. On commence avec la NFL, mon cher Marc. C'est ce soir le début de la saison. Un match important, mais en fait intéressant surtout pour les Eagles de Philadelphie qui ont le problème que les Alouettes n'ont jamais eu depuis 10 ans.
C'est intéressant. C'est un très bon point. Tu as bien résumé la situation. Effectivement, et ce que Michel veut dire, chers auditeurs, c'est que les Eagles de Philadelphie ont des corps arrière qui sont capables de faire le travail et ils en ont deux très bons. Mm-hmm. On l'a vu l'an passé, hein, et je t'entendais tantôt te résumer la situation. Nick Foles a remporté le match du Super Bowl pour les Eagles. Il a été élu le joueur le plus utile. Et Nick Foles, lui, avait déjà connu des moments intéressants avec les Eagles quelques années auparavant. Par la suite, on l'avait laissé sans protection. Sa carrière n'allait nulle part, mais on l'a ramené dans l'entourage de l'équipe et tout ça, et il a pris la relève de Carson Wentz. Carson Wentz était probablement le meilleur corps arrière l'an passé dans le circuit Goodell. Il se dirigeait vers un titre de joueur le plus utile de la saison régulière, mais il s'est blessé avec quelques matchs à faire en saison, et on a amené Foles. Ça a été un peu laborieux au début, mais par la suite, il était littéralement en feu en série, et il a fait tout un travail, et c'est lui qui va débuter le match ce soir. Pourquoi? Parce que Wentz vient de commencer à faire des entraînements, mais il n'a pas fait d'entraînement avec contact encore. Donc, du côté des Eagles, évidemment, on ne prendra pas de chance. Donc, tout ça pour dire que ça va être intéressant. Aussi, Atlanta, c'est une sacrée bonne équipe. Donc, c'est un excellent match pour débuter la saison de la NFL. Et c'est toujours intéressant, la NFL. Quoi qu'elle a perdu un peu sa popularité au cours des dernières années pour toutes sortes de raisons. On le sait, certains écarts de joueurs à l'extérieur du terrain, le dossier des commotions a fait beaucoup jaser. Et évidemment, le fameux dossier de l'hymne national aussi, qui est encore d'actualité aux États-Unis. Puis ça divise un peu les amateurs de football, mais tout ça pour dire que cette ligue-là est quand même en très, très bonne santé. Mais moi, Michel, en terminant sur la NFL, il y a un match qui m'intéresse et c'est dimanche. Et c'est les Broncos de Denver face aux Seahawks de Seattle. Là, tu me dis, ben écoute, Seattle, c'est une bonne équipe. Denver va être très mauvais. Pourquoi tu veux écouter ce match-là, Marc? Écoute, je vais te dire pourquoi. Il va y avoir un moment assez intéressant dans ce match-là. Shaquem Griffin va débuter le match comme secondeur du côté des Seahawks de Seattle. C'est qui ça, ce gars-là? Il a été repêché en cinquième ronde l'an passé par les Seahawks. Et là, il y a une blessure au joueur partant du côté de Seattle. Donc, c'est lui qui va obtenir le départ. Il a juste une main, Michel.
Ben, je sais.
C'est un joueur de football. Il a juste une main. Évidemment, c'est le premier joueur de l'histoire de la NFL à jouer avec une seule main. Et pensez au football. Là, t'es tout le temps en train d'agripper quelqu'un. T'es en défensive. Tu cours après quelqu'un et tout ça. Mais ce gars-là a réussi l'impossible et il a fait l'équipe et il va débuter le match dimanche, comme je te dis. Une seule main. Ça va être intéressant. Et surtout pour rendre l'histoire encore plus agréable, son frère jumeau débute le match lui aussi comme demi de coin du côté de Seattle également. Donc les deux jumeaux dans l'alignement.
Wow.
Ça va être un moment intéressant à voir. Donc le match Denver-Seattle, c'est certain que je vais jeter un coup d'œil dimanche.
Mais c'est un rouleau compresseur. Il a juste une main, là, mais il est fort physiquement.
C'est
aucun bon sens. Et d'ailleurs, dans la publicité de Nike qui parle où c'est présenté par Colin Kaepernick, on le voit d'ailleurs dans cette publicité-là. Il y a juste une main également. Ça fait beaucoup jaser, évidemment. Un point de vue très intéressant pour ce qui est des matchs de la fin de semaine. Là, je ne sais pas où tu t'en vas, mais tu me dis les belles-mères du monde du sport.
Ben oui, les belles-mères du monde du sport. Il y a des belles-mères en politique, Michel, hein?
Ouais.
Lorsque t'es maire d'une ville, puis 20 ans après, on va chercher ton opinion, ben on le fait aussi dans le monde du hockey. Puis hier, c'était Serge Savard qui était sur toutes les tribunes. Puis c'est correct, Michel, en même temps, les médias savent que en allant questionner Serge Savard, puis en allant questionner Guy Lafleur, parce qu'on va le voir cette année, Guy Lafleur va venir dans l'actualité 2-3 fois par année. C'est toujours comme ça, Michel. On va chercher les commentaires de gens qui ont marqué peut-être l'histoire du sport. Entre autres, je vais juste parler ici au Québec, mais l'histoire du hockey au Québec, puis c'est des gens que, il y en a plusieurs qui vont écouter leur opinion, mais tu sais, en même temps, il faut que t'en prennes puis t'en laisses, puis je comprends que Serge Savard est très respecté, il a fait tout un travail avec le Canadien de Montréal, des jeux de très longues années, deux Coupes Stanley remportées, donc évidemment, il a une feuille de route intéressante, mais en même temps, ça fait 25 ans qu'il n'est pas au poste de directeur général dans la Ligue nationale de hockey, cette ligue-là, elle a changé, et je comprends son opinion, sauf que lorsqu'il dit que Marc Bergevin aurait dû tout faire pour échanger Pacioretty avant le camp d'entraînement, avant le tournoi de golf, soit l'échanger ou soit le signer, mais régler la situation. Mais c'est certain qu'il voulait faire ça, Bergevin. Et puis là, je suis pas en train de le défendre sur toutes les tribunes, mais c'est sûr qu'il voulait régler cette situation-là, Michel. Mais il est pas pour le donner, Pacioretty, à n'importe quelle équipe dans la Ligue pour absolument rien, en se disant, bon, moi, je viens de régler un problème. J'ai échangé un capitaine qui ne voulait pas être là. Je l'ai donné pour un choix de troisième ronde, mais au moins, tout le monde va être content parce que le problème est parti. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Même chose du côté d'Ottawa. Je suis convaincu que Pierre Dorion aurait aimé régler le problème Eric Carlson avant même le début du camp d'entraînement. Sauf que les autres équipes te voient venir. Ils savent que tu dois te débarrasser d'un joueur. Donc, évidemment, les offres ne sont pas au rendez-vous. Qu'est-ce que tu fais comme DG? Tu acceptes n'importe quoi pour te libérer d'un problème ou, au contraire, tu te dis, ben écoute, je vais tolérer la situation pour tenter de soutirer le maximum. Tu n'as pas le choix. Tu dois aller chercher le maximum pour un joueur. Donc, c'est un peu la situation qui se passe. Puis, tu sais, des fois, tu peux en prendre puis en laisser, mais ce commentaire-là, je trouve, en tout cas, c'était pas nécessairement
le
meilleur commentaire dans le contexte.
La raison pour laquelle on respecte beaucoup M. Savard, c'est parce que lui, il a participé au processus d'embauche de Marc Bergevin, puis souvent, oui, il vient remettre en question la façon de faire de Marc Bergevin. Fait que ça, pour les médias, c'est intéressant. Puis t'as un bon point quant à la valeur de Carlson ou encore de Max Pacioretty. Tu peux pas les donner. Mais il y a un moment pour ça où ils vont être très payants. Si à la date limite des transactions cette année, les gars sont pas échangés encore, puis leur équipe va moyennement participer aux séries, ou là, il y a une décision importante à prendre pour chacune des organisations. Parce que à la date limite des transactions, dans le cas d'un joueur de location, puisqu'ils n'ont pas de contrat pour la prochaine saison, ça devient intéressant. Puis des fois, on paye cher des choix de repêchage. On donne beaucoup pour ces types de joueurs-là. Question de les voir dans les séries.
Et c'est un pari gigantesque, mais tu sais, du côté des Sénateurs, mettons là que Victor Hedman du côté de Tampa Bay au mois de novembre se casse la jambe pour la saison, évidemment la valeur d'Eric Carlson prend une valeur,
voilà,
va augmenter beaucoup, mais en même temps, si Carlson devait se blesser, et on a parlé du scénario Josh Donaldson il y a quelques semaines, on a vu les Jays qui ont laissé partir Donaldson pour absolument rien,
ben
c'est un pari, c'est des deux côtés, j'ai hâte de voir la direction que ça va prendre.
Marc, bonne journée, on se retrouve demain matin.
Salut Michel.